enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Le titre de mon message de ce matin s'intitule justement « La puissance du sang de Jésus ». Et à travers nos témoignages de ce matin, à travers des livres que notre sœur Ginette nous propose, on est conscient qu'il y a beaucoup de souffrance, qu'il y a beaucoup de souffrance émotionnelle. Les gens sont dans un labyrinthe, sont dans des désespoirs, on cherche à droite, à gauche, on cherche des réponses. Et c'est pour ça que le sang coulait. Jésus a laissé couler son sang au calvaire justement pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous venir au secours de ceux qui sont accablés. Alors, si c'est votre cas ce matin, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui lutte avec un passé difficile, qui lutte avec des blessures du passé, des cicatrices du passé qui sont pas tout à fait guéries encore, mais sachez que vous êtes à la bonne place parce que le Seigneur ce matin veut vous libérer par le sang précieux de Jésus. Dans Matthieu, vous n'avez pas besoin de tourner avec moi, je vais juste le citer. Dans Matthieu, chapitre 10, le verset 16, Jésus dit de son peuple, il dit de nous que nous sommes des brebis, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est un peu énervant d'entendre ça. Vous n'avez pas l'air affolé ben, par exemple. Vous êtes des brebis qui sont quand même assez... vous savez en qui vous avez mis votre confiance, évidemment, parce qu'on dit ça comme bon... Il y a des loups qui nous entourent, on sait que ça parle de cette génération, ça parle des noirceurs, des ténèbres, du péché qui nous entoure. Il dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. On sait qu'une brebis n'a pas grande défense. La seule chose qu'elle peut faire, c'est de bêler. C'est pas ben énervant, le loup, il n'aura pas ben peur. On est au milieu des loups comme des brebis. Mais on doit prendre courage parce que le Seigneur nous a donné une arme. Il nous laisse pas seuls. Comme un bon berger qui protège son troupeau, il va protéger ses brebis. S'il amène son troupeau dans les montagnes, s'il amène son troupeau dans les pâturages, ou qu'il peut y avoir un danger potentiel, parce que oui, des fois, il peut y avoir des loups, des animaux sauvages, mais il est armé, il n'arrive pas là, juste comme ça, puis il dit, oh, mais là, j'espère qu'il n'y aura pas de loups aujourd'hui, j'espère qu'il n'y aura pas de renards pour venir dévorer mon troupeau. Non, il est préparé, il arrive là, puis il est préparé. Alors, le Seigneur nous a laissé aussi une arme, il nous a laissé plusieurs armes, mais il nous a laissé une arme spécifiquement, qu'on va parler ce matin, qui est le sang de Jésus. On va voir ce matin 6 choses que le sang fait pour nous. Non seulement le sang nous a sauvés, c'est déjà merveilleux, c'est la plus belle et la plus grande chose, je pense que le sang fait pour nous, le sang de Jésus nous a sauvés, nous a lavés de nos péchés. Donc, le sang, c'est un bouclier, c'est notre bouclier. On peut dire peut-être dans ces jours que nous vivons, dans notre époque, dans notre culture, en Amérique du Nord, en 2004, un bouclier. C'est bon, là, c'est bien, mais ça n'a pas cette connotation, ça n'a pas l'ampleur que ça avait à cette époque-là. Quand Jésus parlait d'un bouclier, les guerriers savaient très bien que c'était très utile d'avoir un bouclier s'ils ne voulaient pas être tranché en rondelles. Les gens faisaient la guerre à l'époque avec des épées. Ils ne battaient pas comme aujourd'hui avec des armes nucléaires, des choses comme ça. C'était avec l'épée. Alors, ils mettaient leur bouclier, puis ça les protégeait de blessures, des fois mortelles. Alors, le sang de Jésus est notre bouclier. C'est un endroit où se réfugier. N'est-ce pas important de savoir qu'on a un endroit où on peut se réfugier dans des temps difficiles, dans des moments de crise, des moments de tempête qui viennent sur nous? On a un endroit où se réfugier. Il y a beaucoup dans les pays où il y a de la guerre, dans le tiers-monde, des endroits où la vie n'est pas facile. Ces gens-là cherchent des endroits de refuge. Tout leur pays, le village parfois est dévasté. Ils n'ont plus rien à manger. Ils n'ont plus rien pour se vêtir. Tout est brisé. Tout est parti en feu, en cendres. Alors, ces gens-là savent apprécier un endroit de refuge. Se réfugier en quelque part où il y a de la protection pour eux, où il va y avoir de la nourriture, des vêtements, des médicaments. Alors, le sang de Jésus, c'est un endroit pour nous où se réfugier. Si vous avez vos Bibles avec vous ce matin, je vous inviterai à tourner dans l'Évangile de Luc. Luc, au chapitre 22 et le verset 20. Parce que les choses de Dieu s'expliquent mieux avec la parole de Dieu. On peut parler de Dieu, on peut parler des choses de Dieu, mais quand on a les versets à appui, ça met un sens, ça met une toile de fond pour les choses auxquelles on veut parler. Alors, c'est Luc, le chapitre 22, et le verset 20 qui nous dit, « Il prit de même la coupe après le souper. Il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Alors, c'est au moment de la Sainte Cène, Jésus annonce sa mort, et puis il venait de prendre le pain, mais là, il leur donne la coupe. Il les invite à partager, à prendre cette coupe-là. Si je prenais quelque chose qui vous appartient ce matin, je pars avec votre manteau, je pars avec vos bottes, je ne vous demande même pas la permission. Donc, je trouve votre manteau plus beau que le mien. Et plus chic, puis ça donne qu'il me fasse, ça aussi en plus. Je pars avec sans vous demander la permission, sans vous le dire. Vous allez dire, ben là, ça n'a pas de bon sens. C'est de la présomption. Puis qu'elle se prend, celle-là, elle a pris mon manteau, puis elle est partie avec. Mais Jésus, lui, a dit de son sang qu'il a versé pour nous. Voyez-vous l'importance de lire la parole de Dieu? On peut parler du sang de Jésus, puis on peut dire que c'est grand, c'est merveilleux, mais est-ce que ça m'appartient, ce sang-là? Est-ce que j'ai le droit au sang? Mais oui, il l'a dit, je l'ai versé pour vous. Alors, on a le droit de prendre, de s'approprier, parce que là, ça devient mon droit, parce qu'il me l'a dit. Je l'ai versé pour toi. Il l'a versé pour nous. Alors, c'est merveilleux de savoir que ce sang-là a été versé pour nous. Pourvu qu'on marche dans l'obéissance envers lui, nous avons le droit au sang de Jésus à tout moment. Il a dit que cette coupe est la nouvelle alliance en son sang. Jésus, c'était l'enseignant des enseignants. Il était prophète. Il était dans les cinq dons du ministère, mais il était un enseignant hors pair. Jésus enseignait toujours les leçons spirituelles, toujours les choses spirituelles par des choses pratiques, des choses qui entouraient le peuple. Par exemple, on sait quand il était au puits de Jacob, et puis la Samaritaine qui est venue pour puiser de l'eau. Elle venait chercher de la vraie eau, là, de l'eau physique. Elle ne venait pas chercher l'eau de vie. Là. Elle venait chercher de la vraie eau. Elle s'en emmenait des cruches, tout ce qu'elle avait besoin. Elle s'en venait puiser de l'eau pour ses besoins. Elle avait peut-être des troupeaux à breuver. Elle avait besoin de faire à manger. Elle avait peut-être besoin de faire son lavage. Elle venait chercher de la vraie eau. Mais Jésus a profité de cette occasion-là qu'elle était là, chercher de l'eau, pour lui dire qu'il était l'eau de vie. Il lui dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, je lui donnerai de l'eau, puis elle n'auront plus jamais soif. Elle se demandait, mais quelle sorte d'eau? C'est quoi cette affaire-là? Moi, il faut que je revienne continuellement, puis il faut que je revienne toujours chercher de l'eau. J'en ai pour aujourd'hui, demain, je devrais revenir. Et la même chose quand Jésus parle de la moisson. Il parlait des champs. Il nous dit dans sa parole, par exemple, « Regardez, vous allez voir que les champs sont blancs. La moisson est prête. » Mais il nous dit « Il manque des ouvriers. Priez le maître de la moisson. » Alors les gens s'identifiaient toujours avec quelque chose qu'ils pouvaient voir. Il parlait des capteurs. Il parlait des brebis. Il parlait des poissons. Il parlait de la mer. Il parlait des montagnes. Tout ce qui entourait, tout ce que le peuple pouvait voir. Il prenait des illustrations qu'on peut voir pour expliquer les choses spirituelles. Parce que des fois, on ne comprend pas avec notre raisonnement, à moins qu'on ait une illustration qui est à propos. Et on peut dire que c'est la même chose avec son sang. Il a parlé de son sang comme étant une alliance. Il a comparé son sang. Il a dit que son sang, c'est le sang d'une nouvelle alliance. Encore peut-être dans nos jours, parce que la Bible, des fois, ça peut nous sembler un peu archaïque, les termes, parce que, bon, dans notre culture, c'est pas évident là, de penser à une alliance. Qu'est-ce que c'est une alliance? Ça fait quoi une alliance? Nous autres, on pense plutôt à aller voir, on va poser notre signature, on va voir, par exemple, un notaire, on va voir un avocat, on a des choses qu'on veut mettre en ordre. On a besoin de faire un testament, on a besoin de faire un emprunt à une caisse, à une banque, ce qu'on fait, ce qu'on va voir le gérant, bon, on négocie avec lui, on lui explique notre besoin, puis suite à ça, mais on arrive à une entente, tout ce qu'on fait, c'est qu'on signe notre nom. Mais une alliance, à l'époque, ça avait une autre sorte de connotation. Alors, on sait que même il y a des tribus dans des parties du monde encore aujourd'hui qui font des alliances entre eux. Les deux parties font une alliance, c'est-à-dire qu'il y a deux chefs de tribu, là, ils vont faire un petit caucus, ils vont s'encontrer ensemble, puis là, ils vont discuter de les besoins d'une tribu face à l'autre. Disons qu'une tribu qui a beaucoup d'armes, mais l'autre, il y a de la nourriture, mais là, ils vont dire, OK, on va faire un pacte ensemble, on va arriver à une entente, puis moi, mes armes t'appartiennent et j'ai le droit de venir dans ta nourriture quand j'en aurai plus. Il y a une entente mutuelle entre les deux. Ils savent qu'est-ce que c'est que de faire une alliance, parce qu'il faut conserver les deux peuples, il faut prendre soin des tribus. C'est leur façon à eux de survivre, si on veut. Alors, ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est qu'ils faisaient un échange de sang. Ils faisaient un petit entaille, en quelque part, disons, sur les poignets, disons. Et les deux frottaient le sang un de l'autre. Ils échangeaient leur sang. Et ça équivaut comme une signature. C'était bon. On arrivait à un accord, on arrive à une entente. C'est un symbole d'accord. Qu'est-ce qui m'appartient, t'appartient. Qu'est-ce qui t'appartient, m'appartient. On est vraiment en accord. Alors, il y avait le sang. Il faisait une alliance de sang. C'est pour ça que Jésus parle de son sang comme étant une alliance. Parce que ça parle du sang. Les gens pouvaient tout de suite identifier. Et on sait que cette entente-là, cet accord-là, devait être respecté à tout prix. Et Jésus dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Alors, ça signifie que chacune des promesses dans sa parole, chaque promesse qui est écrite dans sa parole qu'il nous a donnée, chaque partie de l'alliance qu'il a faite avec nous, elle doit être gardée, elle doit être respectée au prix de sa vie. Même les deux tribus là, qui ont frotté leur poignet ensemble, qui ont fait un échange, ne peuvent pas arriver la semaine prochaine et dire, ben là, je pense qu'on m'a gardé mes armes finalement. Ils n'ont besoin, mais qu'ils s'en passent. Non, 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 ça ne marche pas mal. Il y a une alliance qui a été faite là. Il faut qu'ils respectent ça au prix de leur vie. Si l'autre tribu est mal pris, qu'ils sont attaqués, quoi que ce soit, ils doivent venir absolument au secours de l'autre. C'est une entente. Ça doit être absolument respecté. Est-ce qu'on peut douter des promesses qui ont été scellées? On peut, parce qu'on est incrédule. Je devrais dire, devrions-nous douter des promesses de Dieu qui ont été scellées d'une telle façon? Il n'est pas juste verbalisé, il n'a pas juste dit les choses, mais il est entré en alliance. Le sang a scellé les promesses. Qu'est-ce que le sang représente? La vie, exactement. Le sang représente la vie. Et à l'inverse, le sang versé représente la mort. Si quelqu'un va au bout de son sang, ben c'est certain qu'il va mourir. On ne peut pas réchapper la personne. On peut essayer par des transfusions, on peut essayer par différents moyens d'essayer de garder la personne en vie. Mais si le corps a trop perdu de sang, s'il y a eu trop d'hémorragie, ben malheureusement, la mort va s'en suivre. Alors, le sang versé représente la mort. Alors, l'alliance de Jésus, c'est une alliance de sang. Donc, on peut dire que c'est une alliance qui est éternelle. Et le sang purifie aussi. Le sang de Jésus. On parle toujours du sang de Jésus. C'est important de voir, parce que c'est un sujet qu'on touche peu dans les églises. On est conscient que le sang nous a sauvés, mais après ça, c'est comme si on ne sait pas tellement de choses à propos du sang. Qu'est-ce que le sang peut représenter? Alors, le sang nous purifie de nos péchés. Il a effacé nos péchés. Le sang a effacé nos péchés. On sait que sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, par exemple, le peuple devait offrir des sacrifices sanglants. Une fois l'an, il devait faire couler le sang. Il devait offrir une tourterelle, un pigeon, une brebis. Et puis ça couvrait les fautes, ça couvrait les péchés pour un an seulement. Donc, après un an, il faut la recommencer, il faut la refaire encore le même rituel, et il faut aller s'acquérir un pigeon, une tourterelle, ceux qui avaient plus d'argent, ils achetaient une brebis, mais il faut absolument que le sang coule. Ça couvrait simplement les péchés pour un an. C'est une préfigure de Christ. Ça parlait de Christ qui allait venir un jour. Puis lui, il n'a pas juste couvert nos péchés, parce qu'on peut couvrir quelque chose, je peux couvrir les fleurs ici, mais quand j'enlève le linge, les fleurs sont toujours là. Mais lui, le sang de Jésus a effacé, il a lavé nos péchés, ils ne sont plus là. Il les a plus en mémoire, il les a plus devant ses yeux. Alors, tournez avec moi dans l'épître de 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9. N'êtes-vous pas content que le sang de Jésus a effacé vos péchés? Alléluia, merci Seigneur Dieu. 1 Jean, chapitre 1, le verset 9, qui nous dit... Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, voyez-vous, le sang purifie. Le sang précieux de Jésus nous purifie. Et bien sûr, ça inclut les péchés du passé aussi. C'est pas juste nos péchés du présent, ça inclut tout. C'est le passé, le présent, le futur a été effacé par le sang de Jésus. Dieu veut tellement nous aider à vivre une vie de pureté, puis une vie de victoire. C'est son désir, c'est sa volonté suprême de nous aider à vivre comme ça. Mais nous, il faut qu'on lui consacre tout notre être. Notre volonté, il faut qu'on la cède pleinement à lui. À lui obéir, ça devrait être la devise de nos vies. Ça devrait être la motivation de nos vies, d'être obéissant à Dieu pleinement. Alors, on peut dire, si je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est-à-dire mon ancienne vie. Je ne peux plus vivre mon ancienne vie, elle n'est plus là. Elle a été crucifiée. Alors, mon ancienne vie, mes anciennes habitudes, mes anciennes blessures, tout ce qu'on m'a fait dans le passé, tout ce qui a été intentionné pour me détruire, c'était crucifié. Quand Jésus a pris la croix, j'ai été crucifié avec lui. Alors, ce n'est plus moi qui vis mon ancienne vie, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que je laisse maintenant Christ vivre sa vie en moi. C'est ça que c'est vraiment ça la signification. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, on vit dans la victoire, on vit dans la paix, on vit dans la joie, on vit dans l'abondance parce que Christ ne connaît pas la souffrance. Il a connu la souffrance, mais maintenant, il est glorifié. Il est assis auprès du Père. Et puis, si on laisse la vie de Christ, si on laisse Christ vivre sa vie en nous, on va vivre une vie de victoire, une vie de pureté, une vie de sainteté. Le sang nous a réconciliés aussi, nous a rapprochés de Dieu. Éphésiens, au chapitre 2, le verset 13. Si vous avez la patience de tourner. Des fois, c'est bon de citer des versets comme ça, mais d'autres fois, c'est bon d'aller les voir pour être certain, bon, que vous ne prenez pas juste ma parole non plus, parce que c'est important qu'on voit que c'est la parole de Dieu, puis ça nous rend familiers aussi avec la parole de Dieu. Donc, c'est un bon exercice de prendre le temps d'aller, de trouver les passages. Donc, c'est Éphésiens, chapitre 2, le verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alors, comme on a dit tout à l'heure dans la louange, on était ennemis de Dieu. On est capable d'aimer Dieu parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. On ne cherchait pas, c'est lui qui nous a trouvés. On était éloignés de lui, on ne voulait rien savoir de lui, de ses principes, de ses préceptes, rien. On était vraiment morts dans nos péchés. On était éloignés de lui, mais il nous a rapprochés par son sang. Le sang de Christ nous a rapprochés de Dieu. Et par le fait même, nous rapproche les uns des autres. Vous savez, la chose que nous avons en commun ce matin, c'est le sang de Jésus. C'est pas notre classe, c'est pas notre compte en banque, c'est pas la couleur de notre peau, c'est pas si on est beau, si on est belle, si on est fin, si on est éduqué, si on l'est peu, pas ou pas du tout, beaucoup. Non, c'est le sang de Jésus. Voilà ce qui nous identifie. Les uns aux autres. Ce qui nous rapproche les uns des autres, c'est le sang précieux de Jésus. Alors, vous voyez l'importance du sang. Il ne nous a pas juste sauvés, mais le sang fait effectivement des choses pour nous. Le sang nous donne accès à la présence de Dieu. Sans le sang qui était versé, on ne peut pas s'approcher de Dieu. C'est impossible pour nous de s'approcher de Dieu, parce que Dieu est trois fois saint. Il ne peut pas tolérer le péché en sa présence. Donc, à cause de Jésus, à cause du sang versé, Jésus a fait un chemin pour nous. Et en faisant couler son sang au calvaire, en mourant pour nous, il a établi cette relation. Il a fait le chemin pour nous, pour qu'on puisse avoir accès à la présence de Dieu. Et à cause de cet accès-là, ben, on peut goûter la bonté de Dieu. On peut goûter à son amour. On peut voir le désir de Dieu de nous accorder ses promesses. Il nous aime tellement. Le Père, maintenant, il nous voit en Jésus. Il ne nous voit plus comme on était autrefois. Il ne nous voit pas comme nous, on se voit, mais il nous voit à travers de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la sainteté, il voit la pureté, il voit la perfection. Voilà, c'est pourquoi le sang de Jésus a coulé, ça nous donne un libre accès au trône de grâce. On a le droit légal, c'est un droit maintenant, on n'arrive pas là qu'à faire, c'est un droit légal qui nous appartient de nous approcher du trône de grâce. Comment? Avec assurance. Il y a trop de chrétiens qui arrivent là à quatre pattes, on arrive là à genoux, la tête entre les deux jambes, puis on se demande, mais là, il va-tu m'écouter, il va-tu, je sais pas, là, je dois te parler un petit peu, mais peut-être, je ne dépasserai pas 5 minutes, je sais que t'es occupé, t'as bien du monde à t'occuper, écoute, on est nombreux sur la planète, je vais te demander quelque chose, mais je t'en demanderai pas trop, je te le promets, là. Parce que, coudonc, à un moment donné, tu as plein de choses à donner à tout le monde aussi, tu sais. Non, puis on arrive là, puis on est craintif, on ne sait pas trop. Il dit de s'approcher du trône de grâce avec assurance, parce que c'est notre droit légal, à cause du sang qui a coulé. Pourquoi est-ce qu'on s'approche du trône avec une telle assurance? Parce que ce n'est pas nos œuvres à nous, ce n'est pas par nous, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est à cause du sang de l'Alliance. On sait qu'on est couvert par le sang de l'Alliance. Ensuite, le sang nous prépare pour toute bonne œuvre. Là, vous allez dire, bien voyons, je ne pensais pas que c'était dans la Bible, ça. Le sang de Jésus peut me préparer pour toute bonne œuvre. Oui, tournez dans Hébreux, chapitre 13, on va lire les versets 20 et 21. Hébreux 13, 20 et 21. C'est important, hein? C'est merveilleux de voir ce que le sang fait pour nous. Il nous prépare pour toute bonne œuvre. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Alors, toute bonne œuvre, on est capable de faire toute bonne œuvre. Nos œuvres sont rendues bonnes, sont rendues capables par le sang de l'Alliance. On est capable d'accomplir toute bonne œuvre, peu importe l'œuvre. Que ce soit une petite chose minime, qui n'est même pas vue aux yeux des hommes, qui est faite dans l'ombre, on est capable de le faire. Que ce soit une grande chose, comme les évangélistes, comme les pasteurs, comme d'aller vers les foules pour annoncer le message de Jésus. Peu importe l'œuvre, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grandiose, elle est faite par le sang de Jésus. C'est important de voir que c'est pas par nos efforts humains, mais c'est par le sang que toute bonne œuvre est rendue quoi? Parfaite. Alors, si vous voulez que vos œuvres soient parfaites en Jésus-Christ, c'est par le sang. Plaidez le sang sur l'œuvre que vous préparez à faire. Le service, l'équipe de louange, le sang est là pour eux. Ils sont capables de rendre gloire à Dieu dans la louange. Leur œuvre est rendue parfaite par le sang. Notre œuvre, mon œuvre ce matin de prêcher la parole, elle est rendue parfaite par le sang de Jésus. Ce n'est pas par nos efforts humains. Alors, si on apprend à faire confiance au sang de Jésus comme ça, d'enlever tous nos efforts, enlever tous les efforts de la chair, là, de dire « il y a un peu de moi là-dedans », puis qu'on réalise que c'est Dieu qui travaille à travers de nous. C'est lui qui opère son œuvre à travers de nous. Alors Dieu a un instrument qui peut utiliser à sa gloire, parce que ça nous efface, ça nous enlève du portrait, puis là c'est juste lui qui paraît, c'est juste son œuvre, et la gloire revient à lui seul. Alors, voyez-vous l'importance du sang de Jésus nous prépare même à toute bonne œuvre. Si on apprenait davantage à se confier dans le sang pour nous préparer au service, souvent on veut faire des belles choses, on veut faire des grandes choses pour Dieu. Le cœur est dévoué, le cœur est sincère, on aime Dieu et on veut faire des belles choses pour lui, on veut faire des grandes choses pour lui. Mais si on se confiait davantage dans le sang précieux, combien plus que Dieu pourrait accomplir? Parce qu'il y a un once de nous. S'il y a une petite, si peu soit-il, une petite fraction de moi là-dedans, de ma chair, ça élimine Dieu. Ça met Dieu de côté. Alors, si on peut continuellement regarder au sang qui était versé, puis dire, c'est pas par mes forces, c'est pas un effort de ma chair, mais Seigneur, je plaide ton sang sur ce que je suis après faire pour toi. Alors, Dieu pourra accomplir davantage dans nos vies, en nous et à travers nous. Et le sang nous rend vainqueurs aussi. Le sang nous rend vainqueurs. Apocalypse, tournez dans Apocalypse, le chapitre 12 et le verset 11 nous parlent justement que le sang nous rend vainqueurs. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Qu'est-ce qu'ils ont vaincu? Ils ont vaincu Satan. Ils ont vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage, c'est-à-dire qu'ils ont rendu leur parole conforme à la parole de Dieu. On dit la même chose que Dieu sur une situation. Quand Satan vient, il veut nous brimer, il veut nous empêcher de faire les choses qu'on est appelé à faire. Il vient et il veut mettre les bois dans les roues. On rend notre parole conforme à la parole de Dieu. Et on applique le sang et la parole de leur témoignage. C'est ça qui les a rendus vainqueurs. Alors que ce soit le péché, la tentation, la maladie, tout ce qui vient de l'ennemi sous n'importe quelle forme est inclus là-dedans. La tristesse, la dépression, la dépendance, toutes les choses qui viennent de l'ennemi, c'est tout inclus là-dedans. Alors le sang a vaincu sur l'ennemi. Le sang a triomphé. Puis on sait que quand une chose est vaincue, ben elle n'existe plus. Quand un pouvoir est renversé, quand un gouvernement est renversé, ben on sait que cette chose-là n'existe plus, n'a plus de pouvoir. Et à l'époque, les gens comprenaient ça très bien parce qu'il y avait des rois Et puis quand un royaume était renversé, qu'est-ce qui arrivait? Le roi conquérant traînait le roi dans les rues, faisait de lui un spectacle public, de l'humilier sur les places publiques. Là, les gens savaient que ce roi-là, il est vaincu, là, il n'a plus de pouvoir. C'était peut-être un tyran. C'est fini. Il n'est plus capable de rien faire sur moi. Je le traîne sur la rue publique, dans les places publiques, puis je le montre à tout le monde. Il n'est pas vainqueur, mais il est vaincu. Et c'est le nouveau roi qui prenait sa place. Alors, c'est la même chose avec Jésus. Ce qu'il a fait avec notre ennemi, son arch-ennemi, l'a traîné sur la place publique. Quand Jésus s'est exposé, c'est nos calvaires, c'est laissé clouer là, son sang précieux a coulé. Il dit, je vous traîne mon ennemi en public! Alléluia! Il l'a vaincu, le sang de l'agneau a vaincu notre ennemi. Alors, quand Satan se présente une forme quelconque, il veut venir sous une forme de découragement. Parce qu'il est subtil. Il ne viendra pas toujours avec des grosses affaires là, qui vont nous sauter en pleine face et qu'on le reconnaît là, qui est derrière ça. Il va venir avec des choses subtiles. Des fois, on va parler mal de quelqu'un. On va avoir une mauvaise pensée d'un frère, d'une sœur. Puis, oh, ils m'ont pas parlé la semaine passée. Ben, là, s'ils ne me parlent pas, moi non plus, je ne parlerai pas. On commence des petites choses, des niaiseries des fois qui amènent la division. Alors, qu'ils viennent sous une forme quelconque de découragement, de tentation, de maladie ou toute autre forme. Il est vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Voyez-vous? C'est comme ça qu'il a été vaincu dans l'époque. Par le témoignage de leur bouche. Alors, vous dites avec moi ce matin, Satan est vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Alléluia! Alléluia! Vous savez, s'il y a un temps ou que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin de connaître la puissance du sang de Jésus. C'est bien dans ces jours derniers. C'est bien dans ces jours derniers où on a besoin de savoir que le sang est coulé pour nous. Puis savoir utiliser le sang de Jésus, savoir l'autorité qui se tient derrière ce sang-là. Parce que l'ennemi va essayer par toutes sortes de ruses de nous décevoir, de nous mentir. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, puis ses trucs non plus. Ses ruses non plus. Il est le même menteur. Et ce qu'il veut faire, c'est d'essayer de nous décourager d'accomplir notre ministère. Il veut essayer de vous décourager d'apporter vos familles au Seigneur, de témoigner dans vos milieux de travail. Il veut faire qu'on ait la mine basse, qu'on soit vraiment découragé. Mais non, faut pas le laisser faire. Il sait que son temps court, son mandat achève. Il y a encore la chaîne est longue, il y en a qui disent qu'il est enchaîné. En tout cas, je trouve qu'il y a une chaîne pas mal longue, parce qu'il fait pas mal de ravages encore. Mais son temps achève, son temps est compté. Il sait que ses jours sont comptés, puis ça achève pour lui. Alors, il va essayer de tout faire pour empêcher l'Église de prendre position, d'empêcher l'Église d'être ce qu'elle devrait être, puissante et triomphante, parce que c'est pour ça que Jésus revient, pour une Église qui est sans ride, sans tache, ni rien de semblable. Alors, à nous de prendre le sang de Jésus, puis de dire, il est vaincu, mon ennemi est vaincu par le sang de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus revient bientôt. C'est juste une question de temps. C'est pas des jours, des semaines, quelques années. Mais c'est sûr et certain qu'il revient. Parce que ses paroles, ses promesses sont oui et amen. Mais il s'en vient pour un peuple qui sont prêts à le rencontrer. Pourquoi? Parce que nous avons vaincu par le sang de l'agneau. Quel merveilleux don que Jésus nous a donné quand il nous a donné son sang précieux. Vous savez, on vit dans un temps où que les gens sont insensibles au sang. On vit dans une époque de violence. On ouvre les médias, la télévision, on voit de la violence, on voit le sang. Nos enfants sont tout petits, sont comme trois pommes, si on ne fait pas attention à ce qu'ils regardent, ils voient le sang couler, ils voient de la violence, on voit aux nouvelles des meurtres crapuleux, des choses épouvantables qui se voient, qui se disent, et les gens deviennent insensibles au sang. Mais le sang de Jésus. Puis on parle du sang des fois, puis les gens sont comme endurcis à ça. Mais quand on parle du sang de Jésus, c'est un sang qui est précieux, parce que Jésus l'a versé pour nous. Il l'a versé au calvaire pour nous sauver, pour nous libérer. Son sang est merveilleux, son sang est précieux. Et vous savez que le sang de Jésus témoigne, et témoigne pour nous, que Jésus nous a rachetés du pouvoir du péché. Et que nous lui appartenons. Quand le Père voit le sang de Jésus, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il a recueilli son sang. Je ne sais pas comment ce qu'il a fait, mais il a recueilli son sang, puis il l'a présenté devant le Père. Alors, son sang est là, puis il nous représente. Son sang témoigne pour nous. N'est-ce pas merveilleux? Quand l'ennemi veut venir, puis il veut nous accuser, parce qu'il est l'accusateur des frères, jour et nuit. Il veut nous accuser. Le Père Jésus présente le sang, son sang précieux devant le Père. Et ça témoigne de notre rachat. Ça témoigne que nous avons été rachetés du pouvoir du péché et que nous lui appartenons en propre. Satan n'a aucun droit sur nous. Il n'y a pas de droit légal sur nous. Le seul droit qu'il y a, c'est le droit qu'on le laisse faire parce qu'il est un menteur. Il veut nous faire à croire qu'il nous appartient. Il veut nous faire à croire que c'est lui le boss. C'est lui qui mène encore. C'est lui qui dirige les affaires dans notre vie. Non, pas si nous sommes nés de nouveau. On a changé de maître. On a changé de royaume. Alors, il n'y a aucun droit légal sur nous. Nous sommes à Dieu et Dieu est à nous. Et c'est pour cette raison unique-là qu'on peut plaider le sang sur nous. On doit apprendre à plaider le sang de Jésus sur nous. Parce que le sang est versé pour nous. On disait au début que si on prend quelque chose, si je prenais quelque chose qui vous appartient, puis je ne vous demande pas la permission, ça ne m'appartient pas en propre. J'ai beau dire, c'est mon manteau, il est beau, je l'aime, c'est bien. Non, c'est pas à moi le manteau si je l'ai pris sans qu'on me le donne. Mais Jésus dit de son sang qu'il a versé pour nous. Alors on a un droit légal en tant qu'enfant de Dieu. On a un droit légal d'être libéré du mal, libéré du péché, de l'oppression, de la maladie, et de la pauvreté. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Quand il est mort sur la croix du calvaire, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Il n'a pas dit, ben là, j'en ai fait une petite partie. J'ai fait la plus grosse partie, là, disons, je vous ai sauvé. Mais là, je vais vous laisser avec le reste du paquet, quand même. Non! Tout est accompli par le sang de Jésus. Alors, on lui appartient, esprit, âme et corps, parce qu'il nous a rachetés. Vous savez, on se rappelle dans l'Ancien Testament, quand les Israélites étaient encore en Égypte, et puis Pharaon ne voulait pas les laisser partir, et puis là, il y a des plaies qui sont venues sur eux, il y a des châtiments qui sont venus sur le peuple, jusqu'à ce qu'ils décident que là, bon, c'est suffisant, on va les laisser partir, parce que là, si on veut rester en vie, là, quand même, il faut faire quelque chose. Donc, il a décidé. Mais avant que ce peuple-là soit libéré, il était encore en Égypte. Et puis, il avait appliqué le sang sur les linteaux des portes, vous vous souvenez? Il y avait l'ange destructeur qui se promenait. Et puis, il tuait, il faisait mourir le premier-né de chaque maison. Mais dès que l'ange destructeur passait, puis il voyait sur les linteaux des portes, il voyait le sang qui avait été appliqué. Il n'était pas capable de rentrer par cette porte-là. Elle était protégée par le sang. C'était juste du sang animal. Jésus n'était pas venu encore. C'était pas le sang de Jésus. C'était un simple sang d'animal qui les protégeait, mais ça préfigurait, ça annonçait Jésus, ça annonçait notre salut, ça annonçait notre Messie, ça annonçait notre Sauveur. Alors l'ange destructeur voyait le sang puis il passait outre. Il ne pouvait pas rentrer dans cette porte-là. Il n'y avait aucun droit légal de rentrer là, faire quoi que ce soit, parce que le sang, les linteaux des portes étaient couverts par le sang. Et nous sommes en sécurité. Le sang de Jésus nous protège, nous garde en sécurité. Alors qu'on puisse apprendre à plaider le sang de Jésus sur nos circonstances, sur ce qui nous entoure, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos proches, sur nos amis. Qu'on apprenne à plaider le sang précieux de Jésus. Et on va voir les résultats parce que le sang n'a pas coulé en vain. Le sang de Jésus est toujours efficace aujourd'hui. Il a coulé il y a 2000 ans, mais il est efficace aujourd'hui. La parole de Dieu dit que celui qui invoque le Seigneur Jésus, celui qui croit dans son cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est en croyant du cœur, c'est en invoquant, c'est en confessant de notre bouche qu'on parvient au salut. Alors le même sang qui a coulé il y a 2000 ans, il a encore les mêmes propriétés aujourd'hui, de nous sauver, de nous garder, de nous protéger, de nous purifier, de nous rendre serviables. Alors, le sang de Jésus, je pense qu'on y pense pas assez souvent. Combien précieux est le sang de Jésus, comment efficace est le sang de Jésus. Alors, apprenons à plaider le sang de Jésus. Peut-être que vous avez fait toutes les prières imaginables pour un proche. Pour un enfant qui est retourné dans le monde, puis il ne veut pas revenir, on dirait qu'il n'y a pas de solution, on dirait qu'il n'y a pas de. On dirait qu'il n'y a pas. On prie, puis on ne voit rien. Plaidez le sang de Jésus. Vous dites, Seigneur, je plaide le sang de Jésus. Puis souvenez-vous les linteaux des portes. Voyez sur votre enfant, voyez sur vos amis, voyez sur votre famille le sang de Jésus parce qu'il a coulé pour eux. Il s'agit juste qu'ils l'acceptent, qu'ils reçoivent le sacrifice de Jésus parce que le sang est là, le sang a été versé. Alors vous dites, Seigneur, je plaide le sang de Jésus sur ma fille, sur mon fils, sur mes circonstances. Je plaide le sang de Jésus sur mes amis, mon entourage, sur Drummondville, sur la province de Québec, sur le monde. Si on apprend à plaider le sang de Jésus, il est efficace aujourd'hui, puis il va faire son œuvre. Alléluia. Alors que le Seigneur nous bénisse et qu'on puisse trouver refuge dans le sang précieux de Jésus. Je vous inviterai à vous lever, puis on va laisser le Seigneur sonder nos cœurs. On va laisser le Seigneur faire son œuvre en nous, parce que le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Il veut faire des choses au milieu de nous ce matin. Alors, Seigneur Dieu, on te remercie pour ton sang précieux. Merci pour le sang qui a coulé au calvaire, Seigneur Dieu. Merci d'avoir versé jusqu'à la dernière goutte de ton sang pour nous sauver, pour nous laver, Seigneur, pour effacer nos péchés. Mais vous savez, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, c'est quelqu'un qui dit, mais moi je pensais là, que Jésus c'est un salut universel, il est mort pour tout le monde, donc ça doit m'inclure. Oui, le sang il a coulé pour tous et chacun. Dans un sens, c'est un salut universel, mais dans un autre sens, c'est un salut personnel. Je peux croire que le sang a coulé pour moi, mais toujours pas être sauvé. Ce qui fait la différence, c'est qu'il faut confesser. Croire de mon cœur qui a versé son sang pour moi. Pas juste pour l'autre à côté de moi, pas juste pour l'autre sur le bord de la rue, mais le verser personnellement pour moi, de le croire de tout mon cœur et de le recevoir. De le confesser avec ma bouche. Ce qu'on croit, c'est facile à confesser. Si on croit quelque chose, souvent on n'a pas de misère à en parler. Pourquoi? Parce qu'on est tellement convaincu. Alors c'est la même chose. Si on croit de notre cœur, on va confesser de notre bouche aussi. Alors avec les yeux fermés ce matin, je vous invite, s'il y a quelqu'un qui est ici ce matin, qui aurait besoin d'être sauvé, qui ne sait pas qu'il est sauvé, qui ne sait pas qu'il appartient à Jésus. Il n'est pas certain, vous n'êtes pas certain si vous avez fait la bonne décision, mais il y a des bonnes chances que vous ne l'avez pas fait. Parce qu'on ne sait pas, s'il y a un doute, peut-être qu'on n'est pas né de nouveau. Alors, je vous invite, si quelqu'un comme ça ce matin, à lever votre main et dire, oui, moi, je suis prêt à croire. Je suis prêt à croire. Je veux confesser que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Le Seigneur Jésus va effectuer un miracle pour toi. Oui, j'ai vu ta main, tu peux la baisser. Le Seigneur va effectuer un miracle pour toi ce matin. Il t'a emmené ici ce matin pour que tu puisses entendre le message du sang de Jésus qui était versé à la croix. Alors, je t'invite, toi, à prier de tout ton cœur. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Merci. Puis les autres, qu'on est ici, on n'est pas des auditeurs simplement, mais on va se joindre à cette personne-là qui veut recevoir le Seigneur Jésus. Alors, tu vas répéter. Ceux qui veulent prier, on va encourager, on va aider. Mais toi, de tout ton cœur, invoque le Seigneur Jésus. Père éternel, je viens à toi dans le nom de Jésus. Merci parce que ton sang a coulé pour moi. Ton sang a effacé mes péchés, les a pardonnés. Je te remercie, Seigneur, et je reçois ce don. Je reçois ce cadeau qui est le sang précieux de Jésus. Alors je confesse maintenant de ma bouche que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Mais merci, Seigneur Dieu, de faire de moi ton enfant. Merci que tu m'accueilles dans ta famille aujourd'hui. Merci que tu es mon Père et que je suis ton enfant. Merci, Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis. Dans le nom puissant de Jésus. Alors, si vous avez fait cette prière-là avec sincérité, Dieu, par son Saint-Esprit, il est venu faire sa demeure en toi. Il est venu habiter en toi. Alors, on remercie le Seigneur parce qu'il y a un homme ce matin qui a confessé le Seigneur Jésus. Alléluia.
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignement.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.